Alors maintenant, face à ces constats, que fait la recherche économique sur ce sujet? Alors, on a tout, hein. D'accord? On a l'essor des exportations manufacturières des pays à bas salaire, plus la désindustrialisation des pays développés, égale inégalité sociale. OK? Donc, je m'ouvre au commerce avec des pays du Sud. Ils viennent concurrencer ma production manufacturière, je détruis des emplois dans les pays riches pour remplacer par des importations. Les emplois industriels sont en moyenne moins rémunérés et moins qualifiés que les emplois dans les secteurs protégés, notamment dans les services. Donc ça crée des inégalités sociales. Okay, donc ça, on a effectivement le crime... le lobby et le mobile et le coupable, tout est écrit. Et en plus, on a la technique, le modus operandi du crime, qui nous est donné pas par des afro-gauchistes, mais par une tripotée de prix Nobel et un modèle canonique de commerce international enseigné dans toutes les universités qui montre bien que les théoriciens du commerce ne sont pas des grands libéraux, hein, ou en tout cas, ils ne vous disent pas que c'est le commerce international, c'est toujours bien pour tout le monde tout le temps. Non, au contraire, la théorie économique, elle est très très claire. Le commerce international, c'est bien, mais pas pour tout le monde. D'accord, c'est pas Pareto optimal, et donc pour que ce soit Pareto optimal, l'ouverture commerciale, il faut mettre en place en même temps des politiques de redistribution, il va y avoir des gagnants et des perdants, il faut prendre des impôts aux gagnants pour redistribuer aux perdants, et là on restaure un équilibre parisien. Très bien. Donc c'est pas extravagant, on a tout ça qui est écrit noir sur blanc, notamment par Paul Samuelson, avec le théorème Stolper-Samuelson. Alors, ce qui nous lie, juste un point pour vous rafraîchir les idées, ce qui nous lie l'ouverture au commerce aux inégalités, c'est le théorème Stolper-Samuelson. Donc, pour ceux qui ont oublié leur cours de troisième année d'université. Le théorème Stolper-Samuelson, c'est assez spécifique. C'est dans le cadre du modèle HES, donc on a une concurrence parfaite, on a deux biens, on a deux facteurs, du capital du travail, ou du capital, enfin du travail qualifié et du travail non qualifié, on va dire, puisqu'on parle d'inégalité, c'est bien. Travail qualifié et travail non qualifié, deux biens, deux pays, on peut mettre plein de pays, ça ne change rien. Et le théorème Stolper-Samuelson nous dit, si le prix relatif des biens change, si le prix relatif des biens d'un bien augmente, eh bien, la rémunération réelle du facteur qui est utilisé de façon intensive dans la production de ce bien va augmenter et la rémunération réelle de l'autre facteur va diminuer. J'ai deux biens, du textile, des avions, d'accord. Si le prix du textile augmente, ça va augmenter la rémunération réelle du facteur qui est utilisé de façon intensive dans la production de textiles, et ça va baisser la rémunération réelle de l'autre. Inversement, hein, si le théorème est inversible, donc si le prix du textile baisse, ça va baisser la rémunération du facteur qui est utilisé intensivement dans la production de textiles, et ça va augmenter la rémunération du facteur qui est utilisé de façon intensive dans la production d'avions. OK ? Un petit peu compliqué, mais... Du coup, il n'y a pas de commerce international, surtout, hein, là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on s'ouvre au commerce? Vous êtes l'Union européenne, vous ouvrez au commerce avec la Chine. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez importer du textile et vous l'importez parce qu'il est relativement moins cher, d'accord? Et vous allez exporter des avions. Et donc, quand vous ouvrez au commerce, qu'est-ce qui se passe? Le gain du commerce, hein, dans les modèles d'avantage comparatif, c'est quoi? C'est un choc de prix. Hein. On passe du système de prix de Tarsi à un système de prix international. Et ce choc de prix... Un choc de prix relatif, le prix des deux biens, le prix relatif des deux biens change. C'est ça qui se passe quand on s'ouvre. Et donc, quand je m'ouvre au commerce avec la Chine, eh bien, le prix relatif du textile va chuter. Et ça me dit quoi? Ça me dit que le salaire des gens qui travaillent dans le textile, qui sont intensifs dans le textile, les travailleurs non qualifiés, va diminuer. et le salaire des gens qui travaillent de façon, enfin, qui sont utilisés de façon intensive dans l'aéronautique va augmenter. Les travailleurs qualifiés vont voir leur salaire augmenter, les travailleurs non qualifiés diminuer. C'est plus que les inégalités qui augmentent hein, dans ce théorème-là. Ce n'est pas juste le salaire relatif des qualifiés non qualifiés qui varie. C'est la rémunération réelle des travailleurs qualifiés non qualifiés qui baisse. Donc, les travailleurs non qualifiés, ils perdent. C'est une perte sèche. Hein. Ce n'est pas qu'ils gagnent moins que les autres. Non, ils perdent. Okay, ils sont plus malheureux à l'ouverture qu'en autarcie. Et les autres gagnent, de façon nette. Le bien-être global augmente. Ça veut dire que les gagnants gagnent plus que les perdants. Et donc, on peut aisément redistribuer si les choses étaient aussi faciles que dans les modèles. Okay. Donc là, on a très clairement un lien entre... Voilà, on est un pays riche, on est abondant en travailleurs qualifiés, on s'ouvre au commerce, on se spécialise dans le bien qui utilise de façon intensive le facteur abondant. Ce facteur va gagner, le travail qualifié gagne, les autres facteurs perdent. Et donc, je m'ouvre au commerce avec un pays à bas salaire, les inégalités augmentent. Et pire que ça, les pauvres perdent. D'accord ? C'est pas, vous avez gagné moins que les autres. Non, ils perdent. OK. Donc tout est bien, on a la théorie qui va avec. Alors, on est content, sauf que l'économiste, lui, il ne se satisfait pas forcément de ça. Hein. C'est-à-dire que l'économiste, il ne prend pas les conclusions du modèle pour dire, ben voilà, ça correspond. Non, il prend un modèle et il y croit. Ou alors, il change de modèle. D'accord ? Alors, si on commence à croire le modèle, ben, on prend le truc, puis on s'attache à regarder comment ça se passe. Et donc, on croit le modèle jusqu'au bout. Et là, quand on regarde, en fait, il y a plein de faits, d'évidences empiriques, qui ne correspondent pas du tout à un effet Stolper-Samuelson. Donc, ce que va chercher la littérature dans les années 90, c'est la mise en évidence d'un effet Stolper-Samuelson. Est-ce que Stolper-Samuelson explique la croissance des inégalités aux États-Unis, puisque, essentiellement, la recherche est concentrée sur le cas américain. Alors, il y a plein de faits qui ne correspondent pas à un effet Stolper-Samuelson. Le premier, c'est que les inégalités, en fait, elles ont augmenté un peu partout. Beaucoup d'évidences qui montrent que les inégalités ont augmenté dans plein de pays émergents de façon très nette et de façon importante. Et ça, ça ne marche pas. On ne peut pas dire le Stolper-Samuelson fonctionne pour les pays riches, ça augmente les inégalités, mais le même théorème appliqué aux pays pauvres, à la Chine ou au Mexique, à l'Argentine, me dit que quand je m'ouvre au commerce, je dois exporter du textile et ça, c'est bon pour mon facteur abondant, c'est bon pour les peu qualifiés. Et par contre, je vais supprimer mon industrie automobile aéronautique, et ça, c'est mauvais pour les qualifiés, donc je vais réduire les inégalités. On n'a pas vu de réduction d'inégalités dans les pays en voie de développement, pire, on a vu une augmentation des inégalités. Donc on ne peut pas dire c'est Stolper-Samuelson ici, mais bon, ailleurs, c'est différent. En tout cas, il nous manque un morceau. Donc ça, c'est un premier fait qui est quand même un petit peu troublant, et on garde comme ça. L'autre, c'est... Bon, oublions les pays pauvres, imaginons que bon, les inégalités dans les pays pauvres augmentent pour des raisons X ou Y, qui sont indépendantes du commerce. Et regardons le cas des pays riches, le cas américain. Ce que nous dit le modèle HOS, c'est que l'intensité en travail non qualifié doit augmenter dans tous les secteurs avec l'ouverture. Je vous explique l'histoire. Avant, je fabriquais un machin intensif en travail qualifié, électronique, c'est très bon, et un machin agroalimentaire intensif en travail non qualifié. Okay. J'emploie des gens ici, j'emploie des gens là, là j'emploie beaucoup de non qualifiés, là j'emploie beaucoup de qualifiés. Je m'ouvre au commerce, je supprime cette activité parce que maintenant j'importe les produits agroalimentaires. Ah, mais du coup, comme disent les économistes, je libère beaucoup de travail, et surtout du travail non qualifié, puisque là c'était intensif en travail non qualifié. Bon, ben moi, mon modèle, il est bête. Hein. J'ai la concurrence parfaite, y compris sur le marché du travail, et puis j'ai du plein emploi. Donc les gens, il faut bien qu'ils se retrouvent quelque part. Et donc, ils vont se retrouver à être employés dans le travail, dans le secteur intensif en travail qualifié. Tous les gens que j'ai libérés, je les retrouve dans le secteur intensif en travail qualifié. Et donc là, pour réaliser mon plein emploi, j'ai une baisse. Je produis mon bien intensif en travail qualifié avec relativement plus de travail non qualifié. L'intensité en travail qualifié de mon bien intensif en travail qualifié diminue. Ce qui est assez logique en même temps. J'ai augmenté les inégalités, ça veut dire que les travailleurs qualifiés deviennent non qualifiés deviennent moins chers, les qualifiés deviennent plus chers. Ben, ce qui est moins cher, j'en achète plus, ce qui est plus cher, j'en achète moins, et donc ça correspond aussi au programme d'optimisation des entreprises. Donc normalement, je devrais avoir le mécanisme qui me génère des inégalités suite au commerce et au mouvement de spécialisation doit me générer une augmentation, une réduction de l'intensité en travail qualifié dans tous les secteurs. Ce n'est pas ce qu'on voit. Dans tous les pays du monde, sur la même période, tous les pays développés du monde, sur la même période. Là, c'est pour les États-Unis, c'est un vieux papier. Je vous montre ce vieux papier parce que c'est le premier. Hein, donc c'est un QGI de 94, donc ça ne nous rajeunit pas. On a une étude assez longue et on voit qu'on a une augmentation de l'intensité en travail qualifié dans l'économie américaine. Ils font ça par secteur, etc. À l'intérieur de tous les secteurs, on a une augmentation d'intensité en travail qualifié. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas rendre le travail qualifié plus cher et le non qualifié moins cher et en même temps demander plus de travail qualifié et moins de travail non qualifié par chaque entreprise. Il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans. C'est qu'il se passe quelque chose du côté de la demande de travail. D'accord ? Parce que l'offre liée à le choc d'offre lié à la spécialisation devrait me conduire à une pente déclinante. Donc, si ce n'est pas l'offre qui m'amène par là, c'est forcément qu'il se passe quelque chose dans la demande. Et là, pour le coup, mon commerce, je ne vois pas pourquoi il changerait le mode de production des entreprises. En tout cas, ce n'est pas dit dans mon modèle avec Chiroline. Et puis, l'histoire HOS, c'est des histoires d'avantages comparatifs et donc de spécialisation. Je m'ouvre au commerce, je développe un secteur, j'en élimine un autre ou je réduis un autre. Et donc, j'ai des ajustements intersectoriels. D'accord ? C'est ce déplacement de travailleurs d'un secteur à l'autre qui fait qu'au final, pour réaliser un équilibre sur le marché du travail, je dois augmenter les inégalités, sinon je n'ai plus d'équilibre. Et donc, il faut que j'ai des forts ajustements intersectoriels pour voir des effets puissants en termes de croissance des inégalités sur le marché du travail. Et ce qu'on trouve, c'est qu'on a surtout des effets intrasectoriels. Alors, c'est les mêmes, hein, Berman, Mooning-Grilich, toujours en 1994, qui prennent la variance de la part des travailleurs qualifiés, de l'intensité en travail qualifié, qu'ils mesurent par les non-production workers, donc les cadres, hein, et ils prennent sa variance totale dans tous les secteurs de l'industrie américaine et ils la décomposent entre une variance intersectorielle et intrasectorielle. Okay. Alors c'est un peu compliqué, ça donne un tableau comme ça, c'est assez laid à lire. Moi j'ai dû m'y reprendre à un certain nombre de fois, on ne voit pas très bien en rouge. Ça me dit, donc là on est sur une période 59-73, là 73-79, 79-87, c'est un vieux papier, hein, donc c'est des vieilles données. Là, c'est en l'emploi et là, c'est en masse salariale. Okay. Donc, emploi et salaire cumulé. Là, ce que nous dit le 0,069, c'est que la part des travailleurs qualifiés, donc des non-production workers, des cadres, dans l'emploi total, a augmenté de 0,069 points de pourcentage par an entre 59 et 73. C'est ça que ça me dit. Donc, c'est le fait tout à l'heure, j'ai eu une augmentation du niveau d'intensité en travail qualifié dans toute l'industrie manufacturière américaine. Et c'est encore pire dans les années 70 et dans les années 80. Une croissance encore plus. Okay. Et donc là, ils décomposent les deux et ils disent la variance intrasectorielle okay, représente 0,387 points de pourcentage des 0,552 points de pourcentage. Donc l'essentiel de la variance observée sur les changements d'intensité en travail qualifié est un ajustement within, c'est-à-dire à l'intérieur des secteurs et pas entre les secteurs. Si j'ai une augmentation du niveau moyen de qualification dans la population travaillant dans l'industrie aux États-Unis, ce n'est pas parce que j'ai eu un overshooting de l'aéronautique et de ces secteurs-là qui sont très intensifs en qualifié. Non, c'est à l'intérieur de chaque secteur que j'ai eu ce changement-là. Et ça c'est pas Stolper-Samuelson. Et donc, c'est pareil pour les autres années. Et puis, Stolper-Samuelson, c'est quoi ? Il y a vraiment des gens qui nous disent « Attendez, regarde commerce, machin. Stolper-Samuelson, c'est Stolper-Samuelson. Ça me parle de prix. Moi, je regarde le papier de Samuelson et Stolper, parle pas de commerce, il parle que de prix. Donc, pour qu'il y ait un changement dans l'allocation des travailleurs et la demande de travail des entreprises, il faut qu'il y ait un changement de prix significatif. Et donc, très clairement, pour avoir du Stolper Samuelson sur les États-Unis, il faut que les prix des biens intensifs en travail non qualifié, le prix du textile aux États-Unis, aient chuté par rapport au prix des biens intensifs en travail qualifié. Okay. Alors, des gens qui ont regardé ça, notamment, il y a un papier célèbre de Lawrence Slaughter qui regarde ça. Donc ça, c'est pour chaque point, c'est un secteur. Donc là, ils ont une classification à 2 chiffres, une classification à 3 chiffres. Chaque point, c'est un secteur. Ils calculent l'intensité en travail qualifié de ce secteur. Donc là, j'ai secteur très intense en travail qualifié, secteur peu intense en travail qualifié, l'aéronautique, le textile. Et là, c'est le changement des prix par rapport à la moyenne des prix. Ils obtiennent un beau truc totalement plein. D'accord ? Donc, normalement, on devrait avoir une baisse des prix de ces biens intensifs en travail non qualifié, on devrait avoir des pentes positives. Là, on n'a rien, et si on veut être méchant, on pourrait même dire qu'on a un truc négatif. Enfin, comme on a fait un peu de stats en cours, on sait que ce n'est pas significatif. Donc, c'est juste qu'on n'a rien. En tout cas, on n'a pas le truc positif qui nous suggérait qu'on devrait avoir un effet Stolper-Samuelson. Donc là, avec tout ça, on est bien embêté. Hein. C'est-à-dire que tout désigne le coupable, mais quand on regarde, quand on fait des perquisitions, qu'on fait des relevés ADL, on se dit, ben non, en fait, il n'y a juste rien qui colle. Rien tombe au carré là-dessus. Et donc, quand on va se présenter au tribunal, on va se faire bouler par la défense, c'est assez clair. D'autant que la défense, elle arrive avec un autre coupable. Elle dit, hein, mais moi, si je prends le dossier, ben, tout ça, ça me désigne quelqu'un qui n'est pas du tout le commerce international, mais qui est plutôt le progrès technique. Alors, le progrès technique, il est très bien parce qu'il peut m'expliquer tout. Le progrès technique, pas n'importe lequel. Le progrès technique dans l'industrie qui est biaisé en faveur du travail qualifié. Typiquement, c'est la mécanisation. Une bonne vieille usine, pas beaucoup de machines, beaucoup de salariés. Une usine moderne, beaucoup, beaucoup de machines et plus de salariés. En fait, il y en a un, il est là, on voit sa main, d'accord ? Mais il est un peu tout seul. Et il y a des chances que ce salarié-là, il soit un peu qualifié. D'accord ? Il soit un peu qualifié parce que c'est un technicien qualifié qui est capable de gérer les machines et c'est plus une ouvrière qui n'a pas fait d'études et qui pousse des pièces de métal dans une poinçonneuse. Okay ? Donc, on a effectivement une mécanisation qui élimine des travailleurs et plutôt des travailleurs non qualifiés qui font des tâches répétitives et puis qui remplace ça par des tâches un peu plus sophistiquées et qui requièrent des niveaux de qualification plus importants. Et ça, ça m'explique tout. Ça m'explique qu'effectivement, j'ai une croissance des inégalités. Je vais virer des travailleurs non qualifiés, je vais embaucher des travailleurs qualifiés. Donc j'ai un choc de demande de travail qui est distordu au profit des qualifiés. Il n'y a pas de raison que ce progrès technique ne se diffuse pas à peu près pareillement dans les pays développés et les pays en voie de développement. Donc le progrès technique peut aussi expliquer la croissance des inégalités en pays en développement. En tout cas, ce n'est pas de raison que ça aille dans un sens pour certains pays, dans un autre pour un autre. Donc ça peut m'expliquer la croissance des inégalités partout. Ça m'explique que les prix des biens intensifs en travail qualifié, non qualifié, normalement, il devrait avoir baissé, mais en tout cas, si ce travail qualifié il est à peu près partout pareil, je devrais avoir j'ai eu des prédictions sur les prix qui sont à peu près indéterminées. Question de croissance de la productivité, mais en tout cas, j'ai plus tellement de prédictions sur les prix, et donc j'ai pas de fait. Et ça fait que j'ai bien des ajustements intrasectoriels, c'est bien à l'intérieur de chaque firme que je mets des machines, que je vire des gens, c'est pas parce que je change d'activité, c'est pas parce que j'arrête de faire des t-shirts pour faire des avions, c'est je fais toujours des t-shirts, mais je les fais différemment, avec plus de machines, et donc j'ai des ajustements intrasectoriels et pas intersectoriels. Donc là, j'ai à peu près tous mes faits, et je suis assez content. Le progrès technique biaisé en faveur des qualifiés permet d'expliquer la croissance des inégalités, au nord comme au sud, explique l'augmentation de l'intensité en travail qualifié, explique les ajustements intrasectoriels sans ajustement intersectoriel, et explique la baisse de l'emploi et des prix dans l'industrie à production constante, c'est les gains de productivité, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, qu'on produit effectivement toujours autant une quantité toujours identique de biens industriels, mais avec de moins en moins de gens et avec des prix plus faibles. Sans distorsion majeure d'un secteur à l'autre au sein de l'industrie. Okay ? Alors, je vous ai fait un graphique pour résumer. Si là, j'ai les inégalités de salaire, c'est un graphique théorique, hein, si j'ai des inégalités de salaire, là, j'ai l'intensité en travail qualifié. Variation positive, variation négative. Ce que j'observe, c'est ça. C'est en rouge, c'est pas très visible. C'est une augmentation de l'intensité en travail qualifié, une augmentation des inégalités de salaire, donc du salaire des riches, des qualifiés, par rapport au salaire des non qualifiés. Donc, je vais me déplacer par là, c'est ce que j'observe. Hein. Qu'est-ce qui m'amène par là ? Ben, ce n'est pas Stolper-Samuelson, parce que Stolper-Samuelson, il m'explique bien les croissances des inégalités dans les pays riches, mais il devrait expliquer une baisse de l'intensité en travail qualifié. Alors, le procureur va dire, oui, mais attendez, hein, c'est peut-être quand même Stolper-Samuelson qui explique qu'on soit arrivé là, mais avec un complice. Complice qui est... la augmentation du niveau d'éducation. Si j'augmente le niveau d'éducation, j'envoie des cohortes de jeunes dans les universités, pour peu qu'ils acquièrent quelques qualifications à l'université, ça doit augmenter l'offre de travail qualifié, donc je devrais en employer plus dans mon économie, puis comme ils sont plus nombreux, ils sont moins chers, plus je massifie l'enseignement supérieur, plus je réduis les inégalités, parce que j'abonde, je déverse sur le marché du travail un grand nombre de travailleurs qualifiés. Et donc là, la hausse du niveau d'éducation, qui est aussi un phénomène des années 80, 90, etc., me tire par là. Alors, Stolper-Samuelson pioche ça, ça peut m'amener là. Hein. Moi, j'ai fait la flèche un petit peu en dessous parce que je suis de mauvaise foi, mais ça peut très bien m'amener là. Hein. Il suffit que je joue un peu avec mes flèches. Par contre, le progrès technique, alors lui, il va directement là. Le progrès technique biaisé, lui, bon, il n'a pas besoin de coupable, il va directement au fait. Donc voilà. Bon, à partir de ça, on a tout un tas de travaux... qui utilisent des modèles d'équilibre général, calculables, une grosse machine, là, on remplit ça d'équations, d'hypothèses et de données, on appuie sur les boutons de l'ordinateur, on donne un coup de pied dedans, et puis on regarde les résultats pour essayer de voir la contribution de chacun de ces effets. Les résultats sont assez navrants, parce que c'est des modèles d'équilibre général calculables, et voilà, soit le modèle n'est pas très bien fait, on a des gros effets, soit le modèle est bien fait, et puis en fait on n'a pas d'effet parce que voilà, l'équipe générale impose trop de contraintes sur le modèle. Donc c'est toujours un peu délicat comme outil, mais ça reste instructif. Et ça, les résultats nous disent, bon, Stolper-Samuelson, ça explique la croissance des inégalités observées, donc ce déplacement de ici à là, pour à peu près 20% du tout. Le reste, c'est du progrès technique. Et ça joue bien l'effet négatif attendu. Bon. Donc, le commerce international n'est pas totalement innocenté, mais enfin, quand même, ce n'est pas le principal coupable. D'accord ? C'est ce qu'on retient à la fin des années 90, et ce qui fait que Krugman nous dit pas le commerce international n'est pas coupable, mais il n'y a pas d'évidence suggérant que le commerce international a joué un rôle majeur dans l'explication de l'augmentation des inégalités aux États-Unis. Pas innocent, mais ce n'est pas le premier coupable. Okay. Bon, voilà, on arrive à la fin des années 90, et on en est là. Bon, bah, ça fait une petite dizaine d'années, 7-8 ans de recherche assez intensive, avec beaucoup de papiers publiés sur cette question-là, et on arrive à cette conclusion. Donc les théoriciens, les analystes du commerce international, ils sont très contents, ils peuvent retourner dans leurs universités, les journalistes arrêtent de les ennuyer, et ils continuent à faire leur modèle, tout le monde est heureux. Mais il y a un rebondissement dans mon histoire. A priori, tout est bien. Hein. Si les inégalités augmentent, c'est la faute au progrès technique. Les politiciens sont très contents parce que le progrès technique, ce n'est pas la responsabilité de qui que ce soit. Progrès technique, c'est progrès technique. On voilà, ne va pas arrêter Internet pour sauver des emplois, ni retourner à la voiture à cheval pour sauver des emplois dans l'élevage des chevaux. Bon, c'est comme ça, le progrès technique, faut s'adapter. Alors que le commerce international, pas du tout. Hein. Le commerce international, c'est la mondialisation, ma brave dame. Non, le commerce international, ça a été décidé et voté dans des pays qui font un peu de démocratie. Et c'est clairement une décision politique, ça ne tombe pas du ciel. Demain, si on veut, on arrête. Hein. Il suffit de remettre de Rouen et puis c'est terminé. Et donc là, il y a une responsabilité de politique. Si la politique, elle fait des gagnants et des perdants, la politique, le politique a pour mission de compenser les pertes des perdants pour que tout se passe bien. Alors que bon, il ne peut pas dire juste, ben voilà, vous aviez qu'à voter pour quelqu'un d'autre et adaptez-vous. Donc c'est socialement et politiquement plus acceptable. Et puis en plus, c'est une histoire heureuse. C'est bien, c'est la productivité, c'est ben voilà, donc il y a un gain là-dedans qui est important et qui est juste un gain de productivité, c'est le progrès technique, c'est bien. Tout le monde est content, mais au final, le commerce international revient à la charge et dès l'arrêt de cette littérature, hein, dès la fin des années 90, on a une autre littérature qui repart en disant non. On a raté un truc important, ok. Et donc on repart à la charge avec d'autres arguments.